Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. Nous marchons ce soir sur le flanc d'une colline, en silence. Dans l'ombre du crépuscule finissant, mon cousin est un géant vêtu de blanc, qui avance, impassible, le visage bruni, taciturne. Nous taire est notre force. Un de nos ancêtres a dû être bien seul, un grand homme parmi des idiots, ou un pauvre fou, pour enseigner aux siens un pareil silence. Mon cousin a parlé ce soir. Il m'a demandé si je montais avec lui. Du sommet, on distingue dans la nuit sereine le reflet du phare lointain de Turin. « Toi qui habites Turin, » m'a-t-il dit. « Mais tu as raison. La vie, on va la vivre loin de son pays. On en profite et on jouit. Et puis quand on revient, comme moi, à 40 ans, on trouve que tout est nouveau. Les langues ne se perdent pas. » Il m'a dit tout cela sans parler italien, mais en employant avec lenteur le dialecte, qui, comme les pierres de cette même colline, est si rêche que 20 années d'autres langues et d'océans diverses ne l'ont pas émoussé. Et il marche, avec le regard absorbé que je voyais, enfant, chez les paysans un peu fatigués. Bonjour Jean-Pierre Ferrini.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Qui est Cesare Pavese, l'auteur de ce texte qui nous amène en cette fin de juin déjà sur les collines italiennes?
Alors vous venez de lire un poème fondateur, Les mers du Sud, que Pavese a écrit en 1930. Et ce Cesare Pavese, en fait au départ, est un poète. Qui se fait connaître par un premier volume qui est Lavorare Stanca, Travailler Fatigue. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir effectivement sur ce poème. Mais on a entendu évidemment déjà une sorte comme ça de rapport, de tension entre deux lieux qui sont les langues, la Langa, qui est donc une région du Piémont, une centaine de kilomètres de Turin, là où est né Pavese, Santo Stefano Belbo, en 1908. Et il y aura toujours ce rapport entre ce pays, les langues, et Turin, où Pavese a passé la quasi-totalité de sa vie. Il se trouve que Pavese a cette particularité de n'être jamais sorti de l'Italie. Il a un peu voyagé, quelquefois forcé pour une relégation en Calabre, pour des questions de fascisme, parce que Pavese, évidemment, a passé son adolescence, a grandi sous le fascisme, et a écrit aussi sous ce régime. Mais il va toujours écrire, penser entre ces deux pôles qui sont les langues, Santo Stefano Belbo et Turin. Et progressivement, Pavese va devenir donc l'écrivain qu'on connaît sans doute davantage, donc ce romancier. Évidemment, donc sa trajectoire est brisée en 1950, puisque Pavese, comme on le sait, se suicide. En 1950, mais entre-temps, donc il aura composé une œuvre importante, à la fois de poète et aussi de romancier. Là encore, deux pôles entre la poésie et le roman. Et au milieu s'insère un texte qui sont les dialogues avec Laeco, qui publie en 1947, qui a aussi une certaine importance. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion, à travers le métier de vivre, d'en reparler.
Le métier de vivre étant le livre du journal de Pavese qu'il publie. Votre présence aujourd'hui est due à deux raisons, Jean-Pierre Ferrini. La première, c'est que vous avez publié un livre consacré à Pavese, Le pays de Pavese, qu'on trouve chez Gallimard dans la collection L'un et l'autre. Et la seconde, qui était en fait la première chronologiquement, c'est David Pargamin, qui travaille au Chemin de la philosophie, qui, lorsque je lui demandais quel livre il recommanderait aux auditeurs de lire cet été, m'a parlé du métier de vivre et de l'œuvre de Cesare Pavese en général. Et David Pargamin est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour David.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire quelles sont les raisons qui vous ont fait choisir ce livre et cet auteur entre tous comme recommandation pour les auditeurs cet été?
Entre tous, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas découvert Pavese dans les langues. Je l'ai découvert à Turin, comme beaucoup de gens, enfin, en voyage, dans une librairie, derrière le musée d'archéologie à Turin, un très beau musée sur l'Égypte. Donc, très loin de Pavese, très loin de sa province d'origine. Et le libraire m'avait dit, je vous imite pas l'accent, mais c'est vieux, c'est très vieux, mais c'est très bien. Je l'ai lu à ton âge, achète-le. Alors, je crois qu'on le lit tôt en Italie, j'en suis pas certain, mais on a dû me le dire souvent, et plusieurs fois, en tout cas, des amis italiens. Et en fait, je pense qu'il tenait surtout à ce que je l'achète. Mais j'ai bien fait de l'acheter parce qu'il m'a parlé cet été-là, parce qu'il me semble qu'il y a, dans ce livre, un sentiment de l'été, ou en tout cas qui ressemble à celui qu'on peut avoir en été quand tout va bien et quand malgré tout il manque quelque chose, comme Pavese lui avait le sentiment un petit peu d'avoir réussi sa vie du point de vue en tout cas littéraire, mais peut-être un peu moins sentimentalement ou pour le reste.
Donc vous dites que c'est une lecture particulièrement adaptée à l'été, selon vous?
Oui, j'ai pas dit légère.
Non, oui, mais pas, on parle d'œuvres pas très légères cette semaine non plus. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Ferrini?
Quand on évoque la saison de l'été, on pense évidemment tout de suite à La Bella Estate, un des tout premiers romans de Pavese. Mais Pavese était quelqu'un qui sans doute a grandi un petit peu à l'étroit dans son époque. Dans le métier de vivre, évidemment, on entend un Pavese particulier, singulier. Et dans les romans, en revanche, et par exemple Le Bel Été, il y a effectivement ce sentiment d'été, mais aussi il y a un mot qui revient souvent, c'est la fête. Une fête quasi au sens presque mythique. À cette époque-là, c'était toujours fête. Je crois que le roman commence comme ça. C'est l'incipit. Mm. Et ensuite, on va suivre l'itinéraire d'une jeune femme qui rencontre des peintres et elle va plus ou moins être amenée à devenir un modèle avec beaucoup de réticence, mais effectivement cette saison que vous avez ressentie de l'été en lisant Le Métier de Vivre, même si effectivement il y a quelque chose aussi d'hivernal, elle est en lien chez Pavese avec également ce qu'on pourrait appeler une forme d'adolescence. Et chez Pavese, ces personnages sont souvent pris dans cet âge où il y a une hésitation à entrer dans une vie plus adulte, comme Pavese lui-même d'ailleurs, d'une certaine manière. L'éternel adolescent, c'est comme ça aussi qu'on pouvait le surnommer.
On va entendre un extrait tout de suite du Métier de vivre pour avoir une idée de son écriture, y compris celle de son journal. Mais d'abord un mot sur ce titre, Le Métier de vivre. Quel titre génial.
Oui.
En quel sens vivre est-il un métier pour Pavese?
Ces deux mots sont presque à dissocier. Effectivement, Pavese serait quelqu'un qui a toujours eu un peu de mal à rejoindre la vie, et cette vie, il aurait toujours du mal même à l'étreindre. Et cette vie, il l'aurait essentiellement retrouvée par l'écriture. Bien sûr, il y a ce mot vivre qui peut paraître paradoxal puisque c'est un journal qui se termine par un suicide, par la mort. Mais en même temps, il y a le terme de métier. Ce livre peut se lire également comme quelque chose qui, pas un art poétique, mais Pavese revient sans cesse dans ce journal sur son métier, sur son métier
d'écrivain.
Sur son métier d'écrivain, sur son métier d'écrire. Hein. C'est aussi un métier d'écrire, ce métier de vivre. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'entends plus, au fond.
Voici un extrait d'un texte rédigé le 27 juin 1946 et dont les premiers mots reprennent ce que vous venez de dire, c'est la tentation de l'écrivain.
Ah.
27 juin 1946. Tentation de l'écrivain. Avoir écrit quelque chose qui te laisse comme un fusil qui vient de tirer, encore ébranlé et brûlant, vidé de tout toi. Ou non seulement tu as déchargé tout ce que tu sais de toi-même, mais ce que tu soupçonnes et supposes, et les sursauts, les fantômes, l'inconscient. Avoir fait cela au prix d'une longue fatigue et d'une longue tension, avec une prudence faite de jours, de tremblements, de brusques découvertes et d'échecs. Et en fixant toute sa vie sur ce point, s'apercevoir que tout cela est comme rien si un signe humain, un mot, une présence ne l'accueille pas, ne le réchauffe pas, et mourir de froid. Parler dans le désert, être seul, nuit et jour, comme un mort.
Avoir écrit quelque chose qui te laisse comme un fusil qui vient de tirer. Cette image de l'écrivain qui, lorsqu'il écrit, procède de la même façon qu'un fusil qui tire, est très parlante. On y entend à la fois la violence de l'écriture et peut-être même la nécessité vitale de ce geste sans lequel, sans le dire le texte, la vie ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue. On passe à côté de la vie sans écriture. Jean-Pierre Ferrigny.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ce qu'on entend aussi, qu'on retrouve souvent dans l'écriture de Pavèze, c'est une tonalité, un ton, quelque chose qui pourrait s'apparenter à un laconisme, quelque chose de taciturne. On l'a entendu aussi dans le début du poème « Les mers du Sud ». Mais c'est vrai que cette image est souvent reprise comme un fusil déchargé. Pavèze est quelqu'un qui écrivait au fond assez vite. Ses œuvres qu'on peut considérer comme des œuvres brèves. Et ensuite, il éprouvait ce sentiment de vide, justement, comme un fusil déchargé, de solitude. Et avec cette interrogation de l'écrivain, à savoir comment ce qui a été écrit va être lu, va être reçu. On entend ça aussi dans ce...
Comment a-t-il été reçu, d'ailleurs ? Ces poèmes, ces publications de son vivant ont-elles été bien accueillies ?
Alors, au départ, Pavèze est poète, comme on l'a dit, mais il est aussi traducteur. Et il a contribué de façon essentielle à faire découvrir en Italie la littérature américaine. Il a, par exemple, rédigé un mémoire sur Max Whitman, et surtout, il a traduit Moby Dick. Et ensuite, beaucoup d'autres écrivains américains. Et en même temps qu'il traduisait, donc, il écrivait donc ses poésies, celles qui seront reprises dans Travail et Fatigue. Travail et Fatigue n'a pas... C'est un livre un petit peu à part dans l'histoire de la poésie italienne, n'a pas reçu un accueil très grand. Pavèze se fait surtout connaître comme prosateur, comme... romancier, si on veut, ensuite il va obtenir une assez grande renommée. Il est aussi Pavèze éditeur chez Einaudi. Il a vraiment participé de façon très très près au fait que des éditions Einaudi sont, enfin, pour comparer d'une certaine manière, cette maison, c'est un petit peu Gallimard, quoi, en Italie. Mais Pavèze a connu cette maison à son début, et il a vraiment participé à la renommée aussi de cette maison, et donc il était plus son œuvre grandissait, plus Pavèze effectivement était connu. Et en 1950, il obtient le prix Strega, qui est l'équivalent de notre Goncourt. Donc il est à la fois un éditeur connu, un écrivain connu, il est aussi reconnu comme traducteur, et puis aussi auteur donc d'un livre de poésie important. Donc Pavèze était quelqu'un qui de son vivant a évidemment été lu.
Il y a quand même le sens de la formule et du titre. On parlait du métier de vivre, celui que vous citez également, travailler fatigue, qu'il faut entendre au sens premier. Hein. C'est vraiment, juste pour en lire un extrait, pour donner une idée, il dit oui. L'idée de travailler fatigue, écrit-il, est un monde de jeunes gens qui vivent heureux et émerveillés, qui se meuvent avec une matinale insouciance parmi les hommes, qui ne refusent pas de rigoler, ou de nager, ou de boire, ou même, pourquoi pas, de baiser, mais qui, avant tout, aiment les gestes simples, les situations claires, le repos après la fatigue après le repos. Quant aux femmes, mes jeunes gens ne sont plus des adolescents, donc pas de jeunes filles angéliques. Ils ne sont pas encore viris, donc pas de couple ni de métier responsable. Les femmes de mon livre s'appellent compagnes. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas que des occasions passagères, ni encore des épouses. Travailler fatigue, en réalité, c'est la vie telle qu'on voudrait la vivre. La vie qui nous donne l'occasion de nous fatiguer à la tâche et ensuite de jouir de cette bonne fatigue qu'est celle que procure le travail accompli.
Pavèze était un immense travailleur. Il était donc à la fois comme traducteur, comme poète, comme prosateur, romancier et comme éditeur. Il avait un caractère assez bourru. Il fallait pas le déranger. Évidemment, donc sa vie en soi a fait que il consacrait beaucoup de temps au travail. Effectivement, cette fatigue du travail, elle est essentielle. On a vraiment lavorare stanca. C'est vrai que c'est une expression qui est comme le métier de vivre, qui est même le bel été. Ce sont des formules qu'on utilise. Souvent, on peut très bien souhaiter. Enfin, quand on souhaite à quelqu'un bel été, évidemment, on pense en tout cas pour ma part, à Pavèze.
Mais travailler fatigue, c'est presque un âge de la vie. C'est ce qu'il semble dire dans l'extrait que j'ai lu. C'est l'âge de la vie où nous travaillons et après avoir travaillé, nous sommes fatigués. Et de cette fatigue, nous allons nous en remettre puisque nous pouvons nous reposer. Il y a une dimension quasiment insouciante de l'existence qui se réduit presque à travailler et à être fatigué, mais pour le meilleur, parce que de cette fatigue, on peut se régénérer.
Oui, on peut très bien dire les choses ainsi. Il y a aussi, alors on peut décliner ce mot, travailler fatigue, aimer fatigue. On peut jouer très bien avec cette formule.
David Pergamin.
Mais on peut avoir le sentiment parfois en le lisant que l'écrivain a des petits passages à vide, et pas seulement dans l'écriture, mais aussi dans sa propre vie, et que on se demande pourquoi ou comment il peut y avoir autant de légèreté dans les romans et si peu dans le journal. Et comment est-ce que vous expliquez pourquoi autant d'insouciance dans ses poèmes et autant de gravité, voire même de mélancolie dans son journal?
Jean-Pierre Ferrini.
Alors, je ne sais pas si le terme de légèreté, j'entends ce que vous voulez dire, qualifierait les romans, voire même les poésies de Pavèze. Il y a aussi une forme de gravité. Quand on lit Pavèze, on entend une sorte de monotonie, de cadence, quelque chose comme ça, une phrase qui tombe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, je crois que c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que chez Pavèze, il y a une tension entre le vivre et l'écrire. Et dans le journal, qu'il se soulage de quelque chose. C'est vrai que le journal, par moment, peut avoir l'effet d'un exutoire. d'un exutoire, hein, et où il va, mais c'est pas uniquement ça. Et heureusement, c'est un journal de pensée, c'est un journal de lecture, c'est un moment aussi où Pavès effectue des sortes d'examens de conscience.
Il peut même être un peu agaçant parfois.
Oui, oui, bien sûr. Oui, il y a aussi un art poétique, hein, dans surtout le début du métier de vivre. C'est-à-dire que voilà, Pavès dans sa vie ne réussissait pas les choses comme il les a réussies dans son œuvre. Hein, ça, c'est évident. Hein, donc il y a toujours ce rapport-là entre les deux. Hein.
Voici comment il décrit une rencontre peut-être avec des collines, c'est en tout cas l'image qui est utilisée dans ce texte « Travail et fatigue ». C'est un texte lu ici par Jacques Gamblin.
« Ces dures collines qui ont façonné mon corps, et les branles à tant de souvenirs m'ont entrouvert le prodige de celle qui ne sait pas que je la vis sans réussir à la comprendre. Je l'ai rencontrée un soir, une tache plus claire, sous les étoiles incertaines, dans la brume d'été. Tout autour, le parfum des collines était plus profond que l'ombre, et soudain résonna, comme sortie de ces collines, une voix plus nette et âpre à la fois, une voix des temps perdus. Quelquefois je la vois, et elle vit devant moi, définie, immuable, comme un souvenir. Je n'ai jamais pu l'étreindre. Sa réalité chaque fois m'échappe et m'emporte loin. Si elle est belle, je ne sais pas. Parmi les femmes, elle semble bien jeune. Me surprend à penser à elle, un souvenir ancien de l'enfance vécue parmi ces collines, tant elle est jeune. Elle est comme le matin. Elle m'annonce dans les yeux tous les ciels lointains de ces matins anciens. Et dans les yeux, je discerne encore une ferme résolution, la plus nette lumière que n'ait jamais eue l'aube sur ces collines. Je l'ai créée du fond de toutes les choses qui me sont le plus chères. Et je n'ai pas réussi à la comprendre.
Cette rencontre a été composée en août 1932 par Cesare Pavès, dont nous parlons aujourd'hui dans les chemins de la philosophie sur France Culture. C'est une suggestion de David Pargamin qui est avec nous en studio et en compagnie de l'écrivain Jean-Pierre Ferrini qui a publié un texte sur Pavès, Le pays de Pavès chez Gallimard. Nous parlons du journal de Pavès, Le métier de vivre, mais aussi de Travail et fatigue dont on vient d'entendre un extrait. Cette rencontre, quelle est-elle? C'est une rencontre avec une femme ou avec un paysage?
C'est un très beau poème que j'aime beaucoup. C'est un poème effectivement de 1932, hein, comme les mers du Sud. C'est-à-dire que Pavès répétait souvent une phrase qu'on trouve dans le métier viril, ce qui a été sera, hein, comme si tout était une sorte de fatalité, comme si déjà tout était dans ce commencement. Et là, effectivement, c'est ce qu'on entend, c'est la femme colline. De Pavès qui revient constamment et en particulier dans son dernier roman La Lune et les Feux, mais pour comprendre ce rapport à la femme et à la colline, je crois qu'il faut avoir vu au moins ou avoir un peu marché dans les Langues et donc la région natale de Pavès où il y a beaucoup de vignes, le vin est réputé et les collines sont rondes et effectivement Pavès les appelait aussi dans la traduction les collines mamelles. Il y a quelque chose de très féminin, mais ce rapport avec celle que Pavès désigne dans ce poème, effectivement, elle prend une coloration, une dimension qu'il faut qualifier de mythique, puisque le mythe est quelque chose que Pavès a réfléchi au fond toute sa vie, dans toute son œuvre, et dans le métier de vivre, il réfléchit sans cesse à cette notion de mythe, et on voit bien que celle qui est désignée, cette femme au fond, eh bien, elle fait corps avec la colline, et elle prend justement cette dimension mythique. Et là, il faut faire un détour par les dialogues avec Lahuko, qui est un livre auquel Pavès tenait particulièrement. Ce n'est pas pour rien, sans doute, qu'il a écrit ses dernières paroles sur la page de garde de cet exemplaire qu'on a retrouvé à l'Albergo Roma, après sa mort, hein, où il dit « je pardonne à tous et je demande pardon » et il ajoute surtout « ne faites pas trop de bavardage, hein, troppi pettegolezzi ». Dans ce livre, qui est un livre d'abord assez difficile, hein, un livre très très ambitieux, effectivement, Pavès croyait, enfin, il cherchait quelque chose qui était une sorte de réalité symbolique, une réalité presque titanesque, où les hommes pouvaient encore avoir une relation avec les dieux, mais aussi les déesses. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans sa poésie, on l'a entendu, et dans ses romans également. Hein, il y a toujours ce rapport entre... Il oppose aux titans ce qu'il appelle les Olympiens, qui ont un petit peu polissé le monde et qui ont fait que voilà, on a perdu ce lien à la ce lien féminin à la colline, comme on pouvait désirer une déesse.
Alors il parle des déesses de l'Olympe et pourtant il ne désire rien tant que de se planter dans le monde, c'est son expression, hein, il l'écrit.
Oui, oui.
Il est clair que nous ne réussirons jamais à nous planter dans le monde, un travail, une normalité, établir une famille. C'est ce qu'il souhaite, mais c'est ce qu'il ne parvient pas à faire.
Oui, oui.
Il y a ce rapport de non-coïncidence avec sa propre existence dans le monde qui lui pèse, semble-t-il.
Oui. Alors peut-être qu'on pourrait essayer d'esquisser brièvement un peu la trajectoire qui dessine le métier de vivre, pour justement essayer de répondre à cette question. Au départ, Pavès, quand il commence le métier de vivre en 1935, il le commence dans ce qu'on appelle le confino, c'est-à-dire qu'il est relégué en Calabre parce qu'il a participé à des activités antifascistes. Même là, bon, c'est le fait que Pavès ait été relégué en Calabre en raison d'une activité politique, c'est assez compliqué, mais je veux pas trop rentrer dans ce détail-là. Donc, au départ, il réfléchit beaucoup à ce qu'il est en train de quasiment de terminer, c'est-à-dire travailler fatigue. Et puis ensuite, il y a l'année 1938, qui est une des années sans doute les plus sombres, les plus difficiles du métier de vivre, qui parle d'une relation avec peut-être la femme que Pavès a le plus aimée, mais dans une relation assez compliquée, qui est Tina Pizzardo.
Il faut dire qu'il a aimé beaucoup de femmes. Elles sont nombreuses, qu'il les a beaucoup aimées, et que c'est aussi source pour lui à la fois de satisfaction et de frustration.
Oui, c'est-à-dire qu'il aurait aimé épouser une femme, donc c'est ce que vous dites, mais en fait, il n'était peut-être pas fait pour ça.
Puis il a des phrases très dures envers les femmes, hein. Il y a des moments qui sont franchement misogynes. Pour un amoureux des femmes,
oui, ça, surtout, d'ailleurs, durant cette année 1938, hein, où il est dans une relation très conflictuelle avec Tina Pizzardo, et là, effectivement, il a des mots... Mais, alors là, pour revenir aussi au cette différence entre le vivre et l'écrire, le Pavès que nous lisons dans les romans n'est absolument pas misogyne. Au contraire, c'est quelqu'un qui a su, avec une certaine sensualité, parler donc des femmes, même faire parler les femmes, puisque dans un de ses romans, Entre femmes seules, il s'agit d'une narratrice. C'est-à-dire qu'il se met à la place d'une femme et il la fait parler, hein, c'est Clélia. Ensuite, justement pour essayer de je pense que c'est important de tracer cette trajectoire. Il y a le début de l'année 1939, enfin la fin de l'année 1938 et le début de l'année 1939 est vraiment très importante et le bilan que, enfin, souvent dans le métier de vivre, Pavès fait en début d'année un bilan de ce qu'il a fait, de ce qu'il a réalisé, de ce qui s'est passé durant cette année. Et ce qu'il dit au début de l'année 1939, c'est un moment vraiment très important. Pavès est en train d'écrire sa première fiction, La prison. Il a déjà commencé à écrire beaucoup de nouvelles, enfin certaines nouvelles. Et quelque chose vraiment là... Commence au début de cette année 1939, où Pavès va écrire ses premiers romans, qui seront pas tous publiés. Au début, en tout cas, il va garder, par exemple, La prison et Le bel été dans un tiroir pour ne publier seulement à la fin. Mais il publie aussi Par chez toi. Paysetoy et La plage qui est un roman magnifique là aussi qui parle d'une femme Clélia où ils sont sur la Riviera italienne elle est mariée à un homme Doro et puis il y a le narrateur qui tourne un petit peu autour de en tout cas qui est invité là et à la fin du roman on se demande si entre Clélia et Doro quelque chose est viable et à la fin du roman on apprend que Clélia est enceinte, elle attend un enfant. C'est un très très beau roman que Pavès au départ en tout cas considérait avec un peu de recul, non pas de mépris, mais un peu de recul. C'est un roman un peu à part d'ailleurs dans l'œuvre de Pavès. Moi, c'est un roman que j'aime beaucoup.
Encore une lecture pour cet été.
Oui, La plage. Oui, ça, je le recommande chaudement. C'est un bref roman. Hein. Encore une fois, les romans de Pavès sont assez courts. Et donc, Pavès, on perçoit d'ailleurs une inflexion dans le métier de vie parce que plus Pavès va progresser dans son œuvre, à la différence du début, moins on va avoir de notations introspectives, plus des notations au fond qui concernent effectivement donc son travail, hein, son travail qui fatigue, son travail d'écrivain. Et puis va arriver effectivement une autre rencontre, Fernanda Pivano en 1940, qui elle en Italie on l'appelle la Pivano, elle est extrêmement connue aujourd'hui parce qu'elle a à la suite de Pavès et de Vittorini, elle a contribué donc à traduire, faire découvrir la littérature américaine, mais après 1950, notamment la Beat Generation, elle est extrêmement connue, elle a une œuvre prolifique de traductrice, mais aussi d'essayiste. En tout cas, il y a cette rencontre avec Fernand. Je ne sais pas si je suis trop long là, si je peux
continuer. Allez-y, il faut qu'on entende aussi d'autres textes, mais c'est tout ce que vous dites est important pour les comprendre.
Et donc, il y a cette deuxième rencontre qui est importante, et il y a des lettres magnifiques à Fernanda Pivano, notamment justement sur quand Pavès retourne un été, encore une fois, dans les Langues, à Santo Stefano Belbo, et qu'il a l'impression de redécouvrir autrement son pays. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à essayer de conceptualiser davantage cette notion de mythe, qui est essentielle pour comprendre, je pense, Pavès, dans le sens aussi où il a toujours cherché un petit peu à se démarquer de ce que... Parce qu'on le qualifiait souvent d'écrivain néo-réaliste, alors qu'il cherchait aussi autre chose. Et puis arrive, évidemment, l'année 1943. Elle est perceptible dans le journal. Septembre 1943, qui est un moment très important dans l'histoire de la résistance italienne. italienne. Et Pavès décide de ne pas rejoindre les partisans dans les montagnes. Et il va se terrer à Crea, Serra Longa di Crea, où sa sœur avait une maison. Et là, il va commencer à élaborer les dialogues avec Leuco. Et puis ensuite, il y a le retour 1945. Et là, il rencontre une autre femme, Bianca Carufi, qui...
Ce n'est pas la dernière, hein, je précise.
Non. Qui, elle, est contemporaine des dialogues avec Leuco. Bianca, Leuco... C'est une nymphe marine, hein, et évidemment on pense aussi à la baleine blanche, hein, il y avait
donc tout Moby Dick.
Bien sûr, Moby Dick. C'est un moment aussi où Pavès, en 1945, au moment donc de la libération, décide davantage de s'engager politiquement, l'impegno civile, comme on dit en italien. Il entre au Parti communiste, il écrit dans l'Unita, le journal fondé par Gramsci. Et d'ailleurs, il va publier deux livres très très différents, Le Camarade, en 1947, et des dialogues avec Leuco, qui sont vraiment deux livres très très différents. Faisant état justement de cette question politique, hein, la question de l'engagement, faut-il s'engager ou pas, hein. Pavès était déchiré par cette question. Et puis arrive la fin, où Pavès publie ses quatre derniers romans, qui sont absolument magnifiques, La maison dans la colline, Le diable sur les collines, Entre femmes seules, et puis le dernier, donc La lune et les feux, qui est sans doute, pour le dire bêtement, son chef-d'œuvre. Là aussi, une lecture
à recommander.
Et là, effectivement, il rencontre cette avant-dernière femme, j'ai envie de dire, qui est Constance Dowling, qui est cette actrice américaine. Et là, bon, on a beaucoup glosé sur cette rencontre, mais la rencontre dure vraiment, enfin, très 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 brève. On peut quasiment dire un mois, mais il y a aussi tout un rapport avec là qu'il faudrait aussi rappeler avec le cinéma. Pavès passait beaucoup de temps non seulement dans les cafés, vous savez que les cafés de Turin sont des cafés absolument délicieux avec les portici, les arcades, et on va se réfugier là, mais aussi dans son adolescence, Pavès allait se réfugier dans les salles de cinéma où il voyait beaucoup de films. Et donc il y a ce rapport avec Constance Dowling, évidemment, qui est assez très intense, passionnel, tragique, mais très très beau, vraiment à la Pavès.
Mais je vous propose qu'on l'entende, Constance Dowling.
Très bien.
Un extrait d'un film dans lequel elle jouait en 1946, Black Angel, suivi de la lecture d'un poème qui lui était adressé avant de mourir. Pavès a pris le soin de laisser quelques poèmes sur son bureau et une lettre.
La mort viendra et elle aura tes yeux.
La mort viendra et elle aura tes yeux. D'abord Black Angel et puis ce poème.
Where's my white scarf?
Right here.
Why don't you keep my things where I can find them? See who that is.
Yes, Miss Marlowe.
La mort viendra. Et elle aura tes yeux, cette mort qui est notre compagne du matin jusqu'au soir, sans sommeil, sourde comme un vieux remords ou un vice absurde. Tes yeux seront une vaine parole, un cri réprimé, un silence. Ainsi les vois-tu le matin quand sur toi seul tu te penches au miroir. Ô chère espérance, ce jour-là nous saurons nous aussi que tu es la vie et que tu es le néant. La mort a pour tous un regard. La mort viendra et elle aura tes yeux. Ce sera comme cesser un vice, comme voir ressurgir au miroir un visage défunt, comme écouter des lèvres closes. Nous descendrons dans le gouffre, muets.
La mort viendra et elle aura tes yeux. Une lettre lue par Anne Martinet, écrite par Cesare Pavese avant de mourir à sa bien-aimée du moment Constance Dolling. Nous parlons de Cesare Pavese aujourd'hui sur les chemins de la philosophie sur France Culture, du métier de vivre, mais aussi de son œuvre en général. Le métier de vivre est le nom qu'il a donné à son journal intime. Et en le lisant avec vous, Jean-Pierre Ferrigny, on comprend aussi pourquoi il s'agit d'un métier. On va y revenir. Il y a vraiment l'apprentissage de quelque chose dans l'écriture, mais aussi dans la vie. Là encore, la mort viendra, elle aura tes yeux. C'est une forme de déclaration d'amour qui passe par la poésie elle-même. C'est, tout est dans cette formule-là. On entend à la fois l'amour
encore et... Encore une formule.
Mais
oui.
C'est ça.
Ouais, oui.
Et qui est glaçante de justesse, justesse, oui.
Donc effectivement, c'est un dernier recueil de poèmes que Pavese a écrit, donc inspiré en pensant à Constance Dowling. Et d'ailleurs, le vers dans ce recueil de poèmes est très court, alors que le vers pavésien était dans Travail et fatigue était réputé pour être un long vers. Hein. On parle souvent du long vers pavésien justement qui marche, hein, qui monte vers ces collines, qui dialogue. Hein, la dimension aussi du dialogue est très importante. Effectivement, donc encore une formule. J'y avais pas pensé. C'est art de la formule, du lieu et de la formule.
Pourtant, d'ailleurs, il dit ailleurs qu'on ne se tue jamais pour une femme. C'est pas par amour pour une femme que l'on choisit de donner la mort. C'est peut-être à l'occasion de cet amour que l'on réalise un certain désespoir. Mais quand il dit alors à tes yeux, ça ne veut pas dire c'est ta faute.
Exactement. Oui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'échec de Pavese à un certain moment donné en France, mais il y a une véritable réussite qui est celle évidemment de l'œuvre. Et je crois que il parle à un moment donné c'est assez étrange de dire les choses comme ça, mais il parle d'un suicide optimiste. Mais comment l'entendre? C'est-à-dire qu'il y a effectivement chez Pavese aussi la volonté de renouer avec un suicide qui soit stoïcien. Je crois que Pavese, par exemple en 1938, c'est quelqu'un qui très très vite jeune songeait au suicide, mais comme on peut y songer à cet âge, même si effectivement certains hélas passent à l'acte. Mais je crois qu'il y a une chose qu'il faut pas oublier chez Pavese, c'est que ce geste final, moi j'en suis convaincu, c'est assez terrible à dire, il n'a été possible, rendu possible que parce que Pavese, justement, a eu le sentiment, cette fois-ci, que le fusil était vraiment déchargé, pour reprendre l'image que vous avez dite tout à l'heure, et que, voilà, il avait terminé. Son œuvre était achevée. Moi, les neuf romans de Pavese, les neuf romans donc qu'il a écrit, de La prison à La lune et les feux, les nouvelles, bien sûr, Travail et fatigue, et au centre, les dialogues avec Leuco. Je crois que il avait 42 ans, c'est jeune. Il a là effectivement jamais réussi à épouser comme il le fantasmait un peu une femme. Il vivait seul chez sa sœur. Il a perdu son père très très jeune. Hein. Pavese était orphelin, sa mère aussi. Il avait une vingtaine d'années. Voilà, il était occupé par son travail d'éditeur, d'écrivain bien sûr. Et il a eu, je crois, le sentiment, et on peut le comprendre, d'avoir atteint un terme. Alors, il est extrêmement reconnu. Encore une fois, on en a parlé, le prix Strega, qui est l'équivalent de notre prix Goncourt. Il est vraiment un éditeur central chez Einaudi. Il le dit à un moment donné, Pavese agaçait beaucoup, je suis un big, je suis un roi. Hein. Mais il a tout au fond. Hein. Sauf, justement, celle... Hein. Qu'il évoque dans le poème Incontro.
C'est pas planté dans le monde. Alors on va entendre les dernières lignes qu'il écrit à deux jours de son suicide. Avant cela, David Pargamin, vous souhaitiez intervenir?
Oui, parce que vous disiez que vous aviez le sentiment qu'il avait terminé et que c'était un suicide presque réussi. Enfin, pas réussi, mais non, en tout mais cas d'accomplissement.
Stoïcisme, je pense.
Stoïcien.
Ouais.
Bah, moi, c'est qu'un sentiment, mais...
Oui, oui.
Moi, je suis sûr que s'il avait pu être là après son suicide pour en parler, il aurait encore trouvé que c'était un raté et qu'il n'aurait fait qu'ajouter ce suicide à la liste de ses échecs. Parce qu'on a l'impression chez lui qu'il n'a jamais réussi à se débarrasser de cette idée. Et je voulais savoir si vous considériez ça comme un trait de sa personnalité ou si c'est réellement quelque chose de, une esthétique de vie, une envie, une sorte, comme certains poètes, une forme de pose.
Jean-Pierre Ferrini, assez rapidement pour qu'on puisse entendre le texte.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a une tension permanente qui animait Pavès. Hein. On a dit au départ tension entre Lélingue et Turin, mais il aurait fallu qu'on parle aussi tension entre le désordre, l'ordre, l'inculte, le cultivé, le rustique, le classique, le mythe, la réalité, la poésie, le roman. J'ai noté comme ça un certain nombre de rapports. Et cette tension qui animait Pavès a peut-être lâché. Il y a quelque chose qui, une sorte comme ça de dépression qui a le fil à lâcher. Il y a quelque chose qui a lâché. Alors il y a encore cet épisode malheureux avec Romilda Bolat à la toute fin. Et on dit qu'elle aurait peut-être téléphoné, mais qu'elle l'ennuyait. Il y avait quelque chose chez Pavès. Il y avait une sorte comme ça. Je sais pas. C'était un rustique aussi Pavès.
Hein. Et pourtant, elle lui dédie ses derniers mots. Écoutons-les peut-être.
Oui,
la beauté de ces mots et la dernière phrase qui sera vraiment la dernière, on la commentera ensuite ensemble.
Chérie, peut-être es-tu vraiment la meilleure, la vraie. Mais je n'ai plus le temps de te le dire, de te le faire savoir. Et puis même si je le pouvais, il reste la preuve. La preuve. L'échec. Aujourd'hui, je vois clairement que, depuis que j'ai 28 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours vécu sous cette ombre. Certains diraient un complexe. Et qu'ils le disent donc, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Toi aussi, tu es le printemps. Un printemps élégant, incroyablement doux et flexible. Doux, frais, fugace, corrompu et bon. Une fleur de la très douce vallée du Pô, dirait quelqu'un que je connais. Et pourtant, toi aussi, tu es seulement un prétexte. La faute, en plus d'être mienne, en est seulement à l'inquiète angoissante qui sourit toute seule. Pourquoi mourir? Je n'ai jamais été aussi vivant que maintenant, aussi adolescent. Rien ne s'additionne au reste, au passé. Nous recommençons toujours, un clou chasse l'autre, mes quatre clous font une croix. Mon rôle public, je l'ai accompli, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai travaillé. J'ai donné de la poésie aux hommes, j'ai partagé les peines de beaucoup. Tout cela me dégoûte. Pas de parole, un geste. Je n'écrirai plus.
Et ne plus écrire, c'est ne plus vivre, pour Cesare Pavese. Jean-Pierre Ferrini.
L'équation, oui, elle est redoutable, mais effectivement, à partir du moment où Pavese... le vivre et l'écrire, ce fameux métier, hein, c'est vrai qu'il est difficile au fond de commenter cette.
Et il se donne la mort deux jours plus tard.
Oui, oui.
Donc il sait que c'est la fin.
On penche effectivement une forme de gâchis, certes, mais encore une fois, même si le geste est incompréhensible, voilà, il y a aussi un courage au fond, et on l'entend d'ailleurs dans cette fin de journal. Il y a une forme de courage, je crois.
D'ailleurs, il a dit dès 1937, il écrit dans Le métier de vivre, le plus grand tort de celui qui se suicide est non de se tuer, mais d'y penser et de ne pas le faire. Rien n'est plus abject que l'état de désintégration morale auquel amène l'idée, l'habitude de l'idée de suicide. Responsabilité, conscience, force, tout flotte à la dérive sur cette mer morte, coule et revient futilement à la surface. Jouer de n'importe quelle stimulation, et il continue, le vrai raté n'est pas celui qui ne réussit pas dans les grandes choses, mais qui ne réussit pas dans les petites. Ne pas arriver à se faire un foyer, ne pas conserver un seul ami, ne pas satisfaire une femme, ne pas gagner sa vie comme n'importe qui, c'est là le raté le plus triste. Il écrit 13 ans avant.
Oui,
quand
oui.
Même.
Oui, mais voilà, mais encore une fois, le geste n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu l'œuvre. Voilà, c'est que
tellement les deux sont indissociables.
Oui, 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 oui. Oui. Voilà, et c'est vrai que le rapport de alors on a c'est toujours moi je rechigne toujours à réduire ce geste à son rapport amoureux qui était catastrophique. On n'a pas parlé d'une chose qu'on parlait beaucoup. Pavès souffrait d'un symptôme qui était, mais on va pas terminer là-dessus quand même, l'éjaculation précoce. Donc il n'arrivait pas à satisfaire une femme, enfin il l'a beaucoup exagéré lui-même.
C'est ce qu'il dit là, oui.
dans le métier du vivre, ça revient quand même, pas souvent, mais ça revient quand même régulièrement. Mais voilà, Pavès, c'est l'auteur de Travail et Fatigue, c'est cet écrivain qui a si bien parlé des femmes, et comme on l'entend encore, ce printemps est absolument magnifique.
Alors, on ne va pas terminer sur cette idée, mais sur Par l'ami d'amore Mario. Qu'est-ce que c'est, cette chanson?
Alors ça, c'est une chanson qui est tirée d'un film où Vittorio De Sica joue, parce qu'au départ, il était acteur. Pavès l'aimait beaucoup. Et d'ailleurs, dans un entretien de 1950, il provoque et il dit « Oui, finalement, si on posait la question à Pavès, il avait une façon des fois de parler de lui à la troisième personne. Oui. » Il dirait qu'il y a Thomas Mann comme prosateur et à l'étranger et en Italie, dit-il, Vittorio De Sica.
Alors malheureusement, on n'a pas trouvé la version de Sica. Oui. Voici celle autrement plus kitsch de Tino Rossi.
Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirar non penso. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano. Fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me, qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mario. So che una bella e mariarda sirena sei tu.
Merci beaucoup Jean-Pierre Ferrini d'être venu nous parler de Cesare Pavès aujourd'hui.
Merci à vous.
Un grand plaisir de vous entendre nous donner envie de le lire, et merci David Pargamin pour ce choix de lecture. J'espère que les auditeurs auront été convaincus.
Oui, ils achètent aussi Le bel été avec.
Eh bien voilà, et bel été.
La plage.
Le bel été, bonne plage à tous les deux et à tous. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Alors nous, chaque jour de cette semaine, nous proposons une lecture à faire cet été pour embellir votre été, chers auditeurs. Et Géraldine, de votre côté, vous proposez une sélection d'activités que nous faisons généralement l'été et à propos desquelles vous avez trouvé des livres.
Alors comme activité pour aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur une activité inattendue, pas forcément agréable. Ce n'est pas la photographie ni le bronzage. Non, cette activité, c'est la paranoïa. Alors vous pouvez me dire que cette activité n'a rien d'estival, c'est vrai, mais je me suis dit que les vacances avaient parfois une dimension plus sombre, plus obscure, qu'il faut bien un peu d'inquiétude pour prendre conscience de tout l'éclat et de l'effort que suppose le repos et la détente, et que surtout c'est bien souvent en vacances, dans ces moments de solitude et de désœuvrement, que l'esprit vagabonde et parfois se perd dans ses propres méandres.
Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Tu le demandes? Et ta petite virée dans l'île?
Oh non, tu vas pas recommencer. Je te l'ai dit, j'étais crevée et je me suis reposée. Tu crois pas que tu bois un peu trop?
J'ai froid.
Moi aussi j'ai froid.
T'en veux? Alors, tu t'es reposée? Pendant une demi-heure?
Non, pendant 5 minutes.
Faux! Vous avez filé à 11h30 et midi sonnait quand je suis arrivé.
L'histoire des idées, le cinéma ou la littérature ne manquent pas d'exemples de paranoïa. Cet extrait du film de L'Enfer de Claude Chabrol en témoigne. C'est le mari jaloux, prêt à séquestrer sa femme pour un soupçon, et c'en est une des figures classiques. L'histoire tout court ne manque pas non plus de ces figures paranoïaques, et c'est tout l'objet de ce livre de Luigi Zoja, Paranoïa, la folie qui fait l'histoire. Pour cet intellectuel italien, sociologue et psychanalyste, la paranoïa est un des ressorts de l'histoire, du massacre des Indiens d'Amérique à la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux guerres préventives des démocraties face au terrorisme. La paranoïa, qui caractérise des figures comme Staline ou Hitler et des politiques totalitaires, serait une des manières de rendre compte de grands événements jusqu'ici réservés aux explications sociales, économiques et politiques. Éclairer l'histoire par la psychanalyse et inversement la psychanalyse par l'histoire, c'est donc l'enjeu de ce livre de Luigi Zoja. Mais quel rapport, au fond, avec vos vacances et l'angoisse paranoïa qui peut parfois vous étreindre en cette période? Quel rapport entre l'histoire et vos vacances? Qu'ont en commun la paranoïa individuelle et circonstancielle et la paranoïa collective et historique?
Voici debout mon meurtrier. C'est de cette façon, même pour qui aurait le temps de réfléchir, qu'il percera le mieux. Il m'a été donné par Hector, le plus détesté de mes hôtes, le plus odieux. Il est enfoncé dans la terre ennemie, celle de Troie, tout frais aiguisé sur la pierre qui mord le fer. Enfin, je l'ai consolidé avec soin de tous les côtés moi-même, pour qu'il mette toute complaisance à me donner ici une mort rapide. Ainsi, nous voilà parés.
Comme ce livre le rappelle très bien, tout commence pour la paranoïa avec Ajax, le héros grec qui veut être le plus fort. Son désir n'a plus de limites, sa raison se laisse déborder, littéralement. Car la paranoïa, c'est à l'origine l'esprit qui se déborde, c'est l'esprit qui trouve de quoi s'exercer dans le combat et face à l'autre. Mais quand l'esprit est seul, sans ennemi ni champ de bataille, où peut-il déborder ? Ce qui est frappant dans la paranoïa est là, dans ce dévoilement du fonctionnement de l'esprit. Un esprit qui tourne à vide, qui veut s'exercer, s'employer, s'activer, mais ne trouvant pas à quoi, étant en vacances, vacant, vide, va imaginer, va se créer de toutes pièces une occupation, une cause, une histoire, une lutte. C'est comme si l'esprit ne pouvait souffrir d'être désœuvré.
En admettant que vous traversiez cet océan et que vous réussissiez à gagner l'Asie, que ferait l'Espagne dans ces contrées?
Du négoce, votre excellence. Si l'on en croit Marco Polo, le royaume de Chine est l'un des plus riches du monde. Là-bas, le plus modeste des édifices est couvert d'or.
N'y a-t-il que cela qui vous intéresse? L'or?
Non. J'apporterai à ces gens la parole divine et j'en ferai de bons et loyaux sujets de Castille et d'Aragon. Au lieu d'un simple royaume, l'Espagne deviendra un empire.
Si le dessein de Dieu était de nous rapprocher de l'Asie, croyez-vous qu'il aurait attendu après vous pour le faire savoir au monde?
C'est le fils d'un charpentier qu'il a choisi pour se révéler au monde.
Ainsi donc, vous vous considérez comme l'élu?
Marie jaloux, dictateur, héros tout-puissant et maintenant Christophe Colomb soit une autre figure paranoïaque. Celle de l'individu seul qui réussit à convaincre une foule. Car la paranoïa se diffuse, contamine et elle passe ainsi d'une solitude à un groupe. C'est l'autre point frappant de la paranoïa. Quand l'esprit déborde, il déborde aussi sur les autres, décidément. C'est comme si on devait en conclure que l'esprit ne pouvait jamais être en vacances. Devrait-on renoncer à en prendre? Ou alors, peut-être, obliger son esprit à ce terrible effort, être seul, désœuvré, en vacances?
Qu'est-ce que vous préférez, vous, Géraldine?
En vacances?
Même seul et désœuvré?
Désœuvré, en vacances. Je vais tenter cet effort, ça va être très difficile, mais je vais le tenter.
Bon courage, je pense que vous allez y arriver, et puis surtout, vous allez lire ce livre.
Oui, qui est quand même assez gros, donc j'aurai de quoi m'occuper, de Luigi Zoja, Paranoïa, la folie qui fait l'histoire, et qui est paru aux belles lettres.
Merci, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Maud Markiewicz, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Pierrick Monsigny à la prise de son, Lélia Sibony et Margot Fuchs qui sont en stage avec nous cette semaine. On se retrouve demain pour la suite et fin de ces lectures de l'été que nous vous conseillons de faire. Demain, nous parlerons de l'écrivaine américaine Carson McCullers. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, tout l'été. Et rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.